direct d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 10 août 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous. Au sommaire du journal, les Kenyans dans l'attente des résultats des élections pour savoir qui de Raila Odinga ou de William Ruto sera leur prochain président. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est aujourd'hui au Rwanda, troisième et dernière étape de son périple africain. Des centaines de détenus s'évadent d'une prison en RDC après une attaque qui a fait 2 morts parmi les policiers. Le bilan de l'attaque djihadiste à Tessit au Mali est revu à la hausse. Bamako annonce 42 soldats tués. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Les Kenyans sont dans l'attente des résultats des élections générales qui se sont déroulées hier. Sans heurts, malgré quelques incidents mineurs, ils attendent de connaître surtout qui du vétéran Raila Odinga ou du vice-président sortant William Ruto va succéder au président Uhuru Kenyatta. Nani Talani.
La commission électorale indépendante doit déclarer les résultats au plus tard le 16 août. Ses agents travaillent d'arrache-pied pour dépouiller les millions de bulletins précieusement enfermés dans des urnes en plastique. Après le dépouillement manuel dans le bureau de vote, les résultats sont transmis électroniquement à l'échelon de la circonscription pour être compilés, puis au niveau national pour aboutir à un résultat final et provisoire. Nous nous efforçons de terminer le dépouillement et la vérification des résultats dès que possible, a déclaré hier soir le président de la commission, Wafula Chebukati, appelant les Kenyans à s'armer de patience. Si un candidat recueille plus de 50% des voix, il est élu au premier tour. Sinon, les deux candidats arrivés en tête vont s'affronter à un second tour dans les 30 jours, ce qui serait une première au Kenya. Depuis 2002, tous les scrutins ont été contestés dans ce pays. Les deux favoris pour la présidentielle cette année, Raila Odinga et William Ruto, ont promis durant la campagne qu'ils vont accepter les résultats.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu au Rwanda cette nuit en provenance de la République démocratique du Congo voisine. Avant sa visite au Rwanda, M. Blinken a indiqué qu'il va discuter des questions liées aux droits de l'homme avec les autorités rwandaises. Les précisions avec notre correspondant Jean Damascène Manishimwe.
La visite du diplomate américain au Rwanda intervient alors que sur les réseaux sociaux dans le pays s'observe un certain mécontentement à la suite du communiqué quelques jours avant le voyage de Blinken en Afrique. Il a déclaré qu'il s'attendait à adresser au gouvernement du Rwanda les préoccupations de son pays en matière de droits humains, en particulier la détention du Rwandais Paul Rusesabagina, condamné à 25 ans d'emprisonnement par la justice rwandaise. Au début de la semaine dernière, le gouvernement du Rwanda a indiqué que la visite du secrétaire d'État américain était une bonne occasion de préciser une fois de plus que l'arrestation et la condamnation de Rusesabagina pour des crimes graves contre des citoyens rwandais étaient légales au regard du droit rwandais international. Le séjour d'Anthony Blinken au Rwanda en provenance de la République démocratique du Congo est perçu aussi comme une occasion d'échanger avec les autorités rwandaises sur les défis sécuritaires dans la sous-région du Grand Lac, surtout si les tensions qui persistent entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Jean Damascène Manishimwe à Kigali pour VOA Afrique.
L'attaque d'une prison dans l'est de la RDC a fait 2 morts parmi les policiers et provoqué l'évasion de plus de 800 détenus. Un assaillant a aussi été tué. Le point avec Abdourahman Dia.
Selon une source pénitentiaire qui a requis l'anonymat, sur les 872 personnes détenues dans cette prison, seuls 49 y sont restés. L'attaque a visé la prison centrale de Kakwangura dans la ville de Butembo. Le capitaine Anthony Mwalu Chahi, porte-parole de l'armée à Beni, a précisé que des munitions ont été récupérées. Il met en cause un groupe Maïmaï non identifié. Le baromètre sécuritaire du Kivu, un organisme qui dispose d'observateurs dans la zone, précise lui que les ADF sont soupçonnés. Présenté par l'organisation djihadiste État islamique comme sa branche en Afrique centrale, le groupe rebelle des forces démocratiques alliées ou ADF est accusé d'être responsable de massacres de milliers de civils dans l'Est congolais et d'avoir commis des attentats en Ouganda. En RDC, les attaques meurtrières visant les prisons et occasionnant des évasions de détenus sont souvent rapportées.
L'armée américaine a annoncé ce mercredi avoir mené une frappe aérienne dans le centre de la Somalie. 4 miliciens du groupe Al-Shabaab ont été tués. La frappe a eu lieu mardi près de Beledweyne, à 350 km au nord de Mogadiscio, après une attaque des Shabaab contre des soldats somaliens, indiqué dans un communiqué Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique. Le chef de la junte au Mali a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine au lendemain de la réception de nouveaux équipements militaires de son allié russe, a indiqué aujourd'hui Assimi Goïta sur son compte Twitter, une information confirmée par la présidence malienne. J'ai salué la qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du Mali et des aspirations de sa population, a déclaré le président malien sur les réseaux sociaux. Toujours au Mali, 42 soldats ont été tués dimanche lors d'une attaque attribuée aux djihadistes dans la ville de Tessit. C'est le nouveau bilan communiqué par un document officiel qui liste nominativement les militaires décédés. Mouamadou Mfa nous en dit plus.
Ce nouveau bilan, le précédent indiquait 17 soldats et 4 civils tués, est le plus lourd pour l'armée malienne depuis 3 ans, en rapport avec la série d'attaques visant les camps militaires dans cette zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. L'armée avait dit lundi que 4 civils ont été tués au cours de cette attaque. Certains étaient des élus locaux, dont Abdul Malik Ag Akna, un notable de Tessit. Le communiqué de l'état-major affirme également que 7 ennemis sont morts dans l'attaque, des assaillants vraisemblablement du groupe État islamique au Grand Sahara, bénéficiant d'un appui de drones et artillerie avec un usage des explosifs et véhicules piégés. Le secteur de Tessit, situé du côté malien de la zone des trois frontières, dans une immense région rurale non contrôlée par l'État, est fréquemment le théâtre d'affrontements et d'attaques.
Des manifestations contre la vie chère en Sierra Leone ont tourné aujourd'hui à l'émeute à Freetown avec 2 membres des forces de sécurité frappés à mort par une foule appelant au départ du président. Un couvre-feu de 15h à 6h du matin a été annoncé par le vice-président qui a confirmé la mort de Sierra Leoneais innocents, dont des membres des forces de sécurité. La police a annoncé avoir arrêté des dizaines de manifestants. Des manifestations ont également eu lieu dans les villes de Makeni et Makburuka, dans le centre de la Sierra Leone. Le Nigeria renvoie depuis lundi dans leur localité 12 000 personnes qui avaient fui leur domicile du nord-ouest du pays à cause de multiples attaques de groupes criminels, ont indiqué les autorités locales, et un déplacé. La gendarmerie sénégalaise a annoncé aujourd'hui avoir interpellé plus de 140 migrants, dont près de la moitié sont des étrangers, qui s'apprêtaient clandestinement à rejoindre l'Europe. Les 143 candidats au voyage ont été interpellés dans la nuit du 6 au 7 août à Fimila et Nianing. Ils étaient respectivement au nombre de 68 et 75 dans ces deux zones de pêche au sud du Dakar, a indiqué la gendarmerie dans un communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien président américain Donald Trump a gardé le silence aujourd'hui face à la procureure générale de New York qui l'auditionnait sous serment pour des soupçons de fraude financière au sein de son groupe Trump Organization. L'ancien président des États-Unis est visé depuis 2019 avec 2 de ses enfants, Ivanka et Donald Trump, Donald Jr., par une enquête au civil de la plus haute magistrate de l'État de New York, Laetitia James. Dans un communiqué, M. Trump s'est dit une nouvelle fois victime d'une chasse aux sorcières et a affirmé avoir refusé de répondre aux questions en vertu des droits et prérogatives accordés à tout citoyen par la Constitution américaine. La justice des États-Unis a révélé aujourd'hui un complot dirigé par un membre des gardiens de la révolution iranienne pour assassiner John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Le ministère américain de la justice a précisé dans un communiqué que Sharam Poursafi, alias Mehdi Rezaei, 45 ans, a été inculpé par contumace pour avoir offert le versement de $300,000 à des individus aux États-Unis pour tuer John Bolton, qui fut, je vous le rappelle, également ambassadeur des États-Unis à l'ONU, apparemment pour venger la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué en janvier 2020 dans une frappe américaine. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Mozambique envisage de créer un fonds souverain pour gérer dans la transparence les revenus tirés de l'exploitation des réserves de gaz dans le nord du pays et faire face aux chocs externes et à la volatilité des revenus. L'exploitation de vastes gisements de gaz naturel découverts en 2010 dans la province de Cabo Delgado pourrait faire du Mozambique l'un des 10 premiers exportateurs mondiaux de ce gaz. Le pétrole a augmenté de plus de 1 dollar le baril mardi à cause de la suspension depuis début août des exportations de pétrole de la Russie vers l'Europe via le léoduc Druzhba, le plus long au monde, qui transporte du pétrole de la Russie vers des points en Ukraine et d'autres pays. Selon Moscou, Kiev a suspendu le gazoduc parce que les sanctions occidentales empêchent Moscou de payer les frais de transit. Le Brent a augmenté de 1,28 dollars le baril. Le brut américain de West Texas Intermediate a haussé de 1,18 dollars le baril. Pour terminer, l'or a légèrement baissé de 0,2% à 1790,50 $ l'once ce mercredi matin. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,4% à 1805,10 $ l'once. L'argent au comptant a chuté de 0,4% à 20,42 $ l'once. Le platine a chuté de 0,05% à 928,89 $ l'once et le palladium a glissé de 0,8%.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La Confédération africaine de football lance sa Super League.
Oui, c'est ce mercredi à Arusha, en Tanzanie, en présence des présidents de la FIFA, Gianni Infantino, et de la CAF, Patrice Motsepe, qui parle d'un futur tournoi beaucoup plus passionnant.
The African Super League.
La Super League africaine est l'un des développements les plus excitants de l'histoire du football africain. L'objectif en termes de ce que nous essayons d'atteindre est très clair. Le principal est de s'assurer que le football africain, il s'agit du football en club, est de classe mondiale, qu'il rivalise avec les meilleurs du monde.
Patrice Motsepe, président de la CAF, cette Super League africaine, qui devrait commencer en août 2023, est doté d'un budget de 100 millions de dollars. D'après un communiqué de la CAF, une partie importante de l'argent de la Super League de la CAF sera réinvestie dans le football africain et une autre partie du processus consiste à donner 1 million de dollars chaque année à chacune des 54 associations membres de la CAF en tant que contribution au développement du football et de la jeunesse. Pour le président de la FIFA, cette Super League africaine permettra de lever le niveau du football africain. Gianni Infantino.
There is a need in Africa, there is a need.
Il y a un besoin en Afrique, il y a aussi un besoin dans de nombreuses autres parties du monde d'amener le football en club au niveau supérieur. Pour cela, il est important d'être innovant, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets et de les mettre en œuvre.
Gianni Infantino, président de la FIFA.
Le match d'ouverture du Mondial 2022 avancé d'un jour.
Le match d'ouverture officiel de la Coupe du Monde 2022 entre le Qatar, pays hôte, et l'Équateur aura lieu le 20 novembre au lieu du 21. C'est ce qu'indiquent des sources proches du tournoi, précisant que la FIFA et les organisateurs qataris ont accepté ce changement. Ces sources ont expliqué que ce match d'ouverture, initialement prévu le 21 novembre au soir, et aurait donc eu lieu après celui prévu en journée entre le Sénégal et les Pays-Bas. La décision, qui doit encore être entérinée par le bureau du Conseil de la FIFA, permettra de revenir à la tradition selon laquelle le premier match est disputé par le pays hôte. Dans le cadre de ce changement, le match Pays-Bas-Sénégal serait déplacé de quelques heures.
Benjamin Mendy au tribunal pour son procès.
Accusé de 8 viols et 8 tentatives de viol et 1 agression sexuelle, le champion du monde de football a comparu ce mercredi au premier jour d'un procès prévu pour durer plus de 3 mois à Chester, en Angleterre. Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis 1 an par son club de Manchester City, est accusé par 7 femmes poursuivies pour viol et agression sexuelle et nie les 10 chefs d'accusation. Il a plaidé non coupable.
Page des sports VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo. êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Bion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Washington a dévoilé lundi un document d'orientation qui annonce une refonte de sa politique en Afrique au sud du Sahara. En visite en Afrique du Sud, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a développé cette nouvelle vision stratégique pour le continent dans un discours à l'université de Pretoria. Il a assuré que les États-Unis veulent un véritable partenariat avec l'Afrique. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Pretoria l'historien et politologue camerounais Achille Mbembe.
L'Afrique n'a pas encore accédé au statut d'acteur géopolitique de façon pleine et entière. L'Afrique reste perçue comme une vaste zone portée vers des crises. Et de ce fait, c'est une région du monde passible de toutes sortes d'interventions de nature profondément humanitaire. C'est à peine si on peut entretenir avec cette région du monde des relations commerciales dignes de ce nom. Et donc l'Amérique n'est pas sortie de ce paradigme qui est enraciné dans sa politique africaine depuis très longtemps. Une des nouveautés de mon point de vue, c'est évidemment l'identification d'un certain nombre de compétiteurs, je pense à la Russie, je pense à la Chine en particulier, que les États-Unis désignent maintenant comme, disons, des rivaux. Les États-Unis se gardent bien de dire aux Africains de se méfier des Russes et des Chinois. Mais c'est tout comme. Et donc, je ne vois pas du tout où se trouve la nouveauté.
Mais le secrétaire Blinken a dit que les États-Unis considèrent l'Afrique comme un partenaire égal et que Washington ne veut pas d'une relation déséquilibrée ou transactionnelle. Il y a quand même un changement.
Mais M. Blinken est un diplomate. Il a l'art d'utiliser des litotes. Cela fait partie de la diplomatie. Mais or, ces litotes, franchement, je ne vois pas en quoi est-ce que cette politique dite nouvelle est différente de celle qui fut appliquée, par exemple, sous l'ère Obama ou même sous l'ère Clinton ou Bush premier en particulier. Disons que sur le plan commercial, quelque chose qui est de nature à attirer l'attention des Africains, c'est la mise en place d'un fonds pour les infrastructures qui s'élève à peu près 600 milliards de dollars. Mais encore faut-il voir comment est-ce que ce fonds pourrait fonctionner. Avec un tel fonds, il est effectivement possible de faire la concurrence à la Chine. Parce que, par exemple, la présence de la Chine en Afrique, c'est des choses très concrètes. C'est des ponts, c'est des aéroports, c'est des infrastructures lourdes que ni la Banque mondiale ni le FMI ne sont prêtes à financer. Encore moins l'aide publique dite au développement. Et donc, une fois qu'on a, disons, écarté cette grande fumée, je vois très peu de choses en réalité qui sont de nature à me convaincre que l'Amérique a changé de fusil d'épaule.
Vous parlez de la Chine, de ses financements, mais à quel prix?
Évidemment, mais ça c'est à poser aux gouvernements africains. C'est à un prix très élevé, c'est au prix de dettes colossales, c'est au prix de l'extraction tout à fait brute des matières premières africaines. C'est au prix de la destruction de la biosphère, c'est au prix de la dévastation écologique. Et donc, ces équilibres, il appartient aux Africains de bien les mesurer avant de faire leur choix.
Achille Mbembe, historien et politologue camerounais, joint à Pretoria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Anthony Blinken a clôturé ce mercredi sa visite en RDC. Le secrétaire d'État américain a eu des échanges hier avec le président Félix Tshisekedi. Ils ont évoqué les questions sécuritaires, électorales et environnementales. La question sécuritaire était la priorité de M. Blinken en RDC et au Rwanda où il s'est rendu ce mercredi. Le chef de la diplomatie américaine a affirmé l'intérêt que les États-Unis portent sur cette question. Les détails avec Alex Kati Kataï à Kinshasa.
Après un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi et une rencontre avec quelques membres du gouvernement congolais, le secrétaire d'État américain s'est confié à la presse. Au cours de cette conférence de presse animée avec son homologue congolais, M. Blinken a affirmé que les États-Unis sont très préoccupés par la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Anthony Blinken s'est dit consterné par le dernier rapport des Nations Unies sur l'appui du Rwanda aux rebelles du M23.
Certainement, nous allons en reparler avec le président Kagame quand je le vois demain au Rwanda. Nous sommes vraiment préoccupés par ce rapport des Nations Unies qui indique que le Rwanda a appuyé le M23. Donc, nous en appelons à chaque partie dans cette région de pouvoir arrêter tout appui au M23, mais en fait, tout appui à tout autre groupe armé non étatique, ce qui pourrait permettre de pouvoir apporter la paix.
Tous les groupes armés sont appelés à déposer les armes et à poursuivre leurs revendications par des voies pacifiques, a déclaré M. Blinken. Concernant la violation répétée de l'intégrité territoriale de la RDC par certains de ses voisins, Anthony Blinken a appelé les pays voisins à respecter les frontières des uns et des autres et à éviter toute intrusion.
Tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale des uns. Des autres, et ça c'est un principe mondial, et très souvent j'en parle par exemple par rapport à l'Ukraine, mais c'est tout aussi important pour la RDC ou pour tout autre pays, en fait, à travers le monde y compris. La RDC, cela doit se faire avec transparence, avec le consentement de la RDC. Nous devons également essayer de pouvoir apaiser le conflit et aussi s'assurer qu'on respecte les résolutions des Nations Unies.
Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC a salué l'implication des États-Unis dans la recherche d'une solution durable face au conflit dans l'est du pays. Christophe Lutundula a également annoncé la démarche entamée par la RDC pour non seulement la publication du rapport d'experts de l'ONU sur le soutien du Rwanda au M23, mais aussi l'examen de ce rapport pour une solution définitive à ces conflits.
Nous avons écrit hier au président du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, nous avons aussi saisi la Commission de l'Union africaine. Donc, le gouvernement de la République, sous l'autorité du chef de l'État, a mis le cap sur l'examen de ce rapport et sa mise à contribution, c'est très important, sa mise à contribution par tous les intervenants bilatéraux et multilatéraux afin de lever le voile de certaines zones d'ombre qui ont été créées délibérément et trouver une solution durable. C'est-à-dire, en fait, les rapports, c'est le diagnostic qui doit nous permettre de trouver les médicaments qu'il faut.
Christophe Lutundula a également affirmé que la RDC compte sur le soutien des États-Unis et d'autres partenaires pour obtenir la levée de l'embargo sur les armes imposées à la RDC. Quant à M. Blinken, il s'est rendu au Rwanda ce mercredi. Alex Katikatai, Kinshasa, VOA Afrique.
Au Tchad, les acteurs politiques et de la société civile réagissent à l'accord de paix signé entre les groupes politico-militaires et le gouvernement sous les bons offices des autorités du Qatar. Cet accord prévoit un cessez-le-feu, la mise en place d'une opération de désarmement, des mobilisations et réinsertion et des conditions de sécurité pour les politico-militaires qui prendront part au dialogue à N'Djamena. Sur une soixantaine de groupes rebelles représentés à Doha, une dizaine a refusé de paraffer le texte. André Kodbajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
Cet accord n'est pas un accord parfait, mais qui a l'avantage d'être un accord qui aujourd'hui va mettre fin à la situation de guerre dans mon pays.
Saleh Kebzabo, vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif, qui a conduit avec les autorités qatari les pourparlers de Doha pendant 5 mois. Il demande aux groupes politico-militaires, notamment le fait qu'ils ne se retrouvent pas dans cet accord, de revenir à de meilleurs sentiments.
Ça fait 60 ans que le Tchad vit dans une situation de paix armée et souvent de guerre. Et donc, moi, je crois qu'il faut apprécier ça parce que nous sommes dans la bonne direction. Et donc, nous pensons que c'est là aussi la dernière chance pour le Tchad. À ceux qui ont refusé de signer l'accord, je leur demande de penser un peu à leur pays, à la jeunesse du pays, au développement économique, culturel et social du pays. Il n'y aura jamais un accord parfait.
En revanche, une partie de la société civile apporte son soutien aux groupes rebelles qui ont refusé de signer l'accord de Doha.
Les politico-militaires disent que nous voulons un vrai dialogue sincère. Sur ce point, nous, ils ont notre soutien parce qu'ils reprennent en quelque sorte ce que nous-mêmes réclamons en interne ici.
Maître Max Loalngar, ancien président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et porte-parole de Wakitama, un mouvement d'opposition.
Ils veulent que tout le monde rallie à ce qu'ils ont proposé ici. Et ça, là, une société civile responsable, un citoyen responsable ne saurait l'accepter.
Le président du Conseil militaire de transition qui a fait le déplacement à Doha a promis de rentrer en héros avec les ex-protagonistes dans le même avion à N'Djamena. Des groupes d'accueil ont été constitués à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, mais il n'en est rien. Abdramane Koulamala, ministre de la Communication, explique.
Les gens passaient des années en exil, ils ne peuvent pas revenir comme ça, comme une valise qu'on va transporter. C'est des gens qui doivent venir avec leur honneur. Nous, on n'a qu'une seule parole et nous respecterons l'accord que nous avons signé. Les politico-militaires, comme l'ensemble des Tchadiens, trouveront un cadre transparent pour débattre de façon claire et précise de l'avenir de notre peuple et de sa jeunesse.
Yassine Abderrahmane, président du parti réformiste, estime lui aussi que l'accord de Doha n'est pas basé sur la sincérité et le respect mutuel. Pour lui, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, doit dire clairement aux Tchadiens son intention.
Est-ce que sa mission, assurer les transitions et organiser des élections libres, transparentes et partir, où il voulait s'éterniser? Ce qu'on a compris, il voulait s'éterniser. Raison pour laquelle certains politiques militaires, dont FAC, ont refusé. Ça veut dire avec l'allure actuelle. Les résolutions sont déjà connues. Si les Tchadiens cautionnent les dialogues actuels, ils vont souffrir pour toujours. Ils vont payer cher.
Parmi les groupes rebelles qui ont refusé de signer cet accord, il y a le FACT de Mahamat Mahdi Ali qui pose comme condition, entre autres, la parité de délégués au dialogue national inclusif, la mise en place d'un nouveau comité d'organisation, la libération des prisonniers et la modification de la charge de transition. André Kodouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Burkina Faso, 15 soldats ont été tués hier dans une double attaque à Namsigia, dans le nord du pays. Au lendemain de ces attaques meurtrières, les analystes et observateurs se posent des questions sur les moyens alloués à l'armée. Mais des organisations proches de la transition espèrent une montée en puissance de l'armée. À Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Le double attentat, l'engin explosif improvisé qui a fait 15 soldats tués, s'est produit sur l'axe Bourzanga-Djibo lors d'une mission d'escorte d'une unité militaire. L'état-major a expliqué qu'un des véhicules du convoi a d'abord sauté sur un engin explosif à hauteur de la localité de Namsigia, région du centre-nord. Alors que s'organisaient les opérations de secours, un deuxième engin a manifestement été activé à distance, causant de nombreuses victimes, indique le communiqué. À Ouagadougou, on se pose de nombreuses questions. Adama Bayala, journaliste et analyste politique.
Aujourd'hui, vous l'aurez appris par le truchement du communiqué de l'état-major de notre armée qu'ils ont actionné un explosif à distance. Aujourd'hui, ils agissent au moyen de commandes à distance. Qu'avons-nous fait, nous autres, notre armée, notre hiérarchie militaire, en retour pour nos braves soldats? Les a-t-on dotés d'armes sophistiquées, efficientes et adaptées? Les a-t-on dotés de robots pour le déminage? Ont-ils été précédés par des drones de surveillance et de renseignement? Ce sont autant de questions qui méritent de trouver réponse dans les jours à venir.
Maître Apollinaire Kielem de Tambela, juriste et analyste politique, pense que ce qui se passe au Burkina Faso est très clair.
Pour moi, il suffit d'équiper les policiers et les gendarmes, de rendre leurs différents postes opérationnels, et ils seront beaucoup mieux disposés à lutter contre l'insécurité actuelle, beaucoup plus que l'armée. En outre, en matière d'enquête, ce sont les policiers et les gendarmes qui sont mieux indiqués que les militaires. Or, le problème qui se passe, ce qui se pose, c'est que l'armée n'accepte pas qu'on équipe la police et la gendarmerie de certaines armes, alors qu'elles se révèlent incompétentes pour faire face au mal qui se pose.
Marcel Tankwano, président du M21, une organisation de la société civile proche des militaires, reste optimiste sur les capacités de l'armée.
L'armée burkinabé, quoi qu'on le dise, monte en puissance. Aujourd'hui, l'armée est à l'offensive pure et dure. Et l'armée burkinabé recherche les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, on peut le dire, ce sont des attaques résiduelles. La semaine dernière, il y a eu plus de 30 à une quarantaine de djihadistes et de terroristes tués. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'armée l'armée burkinabé arrive à un niveau où c'est le maillage territorial aujourd'hui. Ceux qui pensent que l'armée ne fait rien, ceux qui pensent que l'armée a échoué, non, non, l'armée burkinabé n'a pas échoué. L'armée burkinabé ne doit même pas échouer.
La semaine dernière, 13 personnes ont été tuées, dont 4 soldats et 9 supplétifs de l'armée, dans une embuscade à Bulunga, toujours dans le centre-nord du pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.